Bonjour et bienvenue, je m'appelle Roy Palace et je suis l'auteur du blog Le Dessin. Vous allez entendre dans quelques instants mon nouveau podcast sur le sujet de la ressemblance et de la déformation dans le portrait. Donc à l'origine, c'est un article que j'ai écrit pour le blog apprendre-à-dessiner.com et j'ai décidé d'en faire une version audio parce que je pense qu'il touche tous les dessinateurs à un moment donné. Il y a des gens qui pensent que le dessin est difficile. Ces mêmes personnes disent des dessinateurs qu'ils ont une espèce de don. Et un autre groupe de personnes, qui est en plus petit effectif, pense qu'il faut uniquement prendre son crayon et laisser libre cours à son intuition pour pouvoir dessiner. Et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'apprendre toutes ces règles pour tracer des formes correct sur le papier. Et il n'en est rien. Donc je réponds à ces personnes que ce n'est pas vrai. Les gens qui mettront en pratique ce genre de pensée seront désagréablement surpris parce que l'activité se révèle être très compliquée. L'amateur a aussi tendance à croire que le dessin est toujours une représentation fidèle de l'apparence du modèle. Et ce n'est pas le cas, même avec les dessins les plus réalistes. Le dessin n'est pas une forme de reproduction objective de la réalité. Chaque individu est différent, tant au niveau personnalité qu'au niveau de l'apparence. Cela vaut pour le modèle comme pour le dessinateur. Même une photographie peut nous induire en erreur en ce qui concerne la représentation du modèle. Donc, en fait, je me demande est-ce qu'un appareil photographique, donc mécanique, qui imprime de la lumière sur une pellicule ou plus récemment organise des millions de pixels sur un écran depuis son objectif, donc son unique orifice, alors qu'un être humain possède, lui, deux yeux pour percevoir son environnement, comment un appareil de ce type peut fidèlement refléter ce qu'on voit, nous, en tant qu'être humain? Si c'était vrai que la photographie reflétait fidèlement la réalité, on n'aurait pas besoin d'aller dans des ateliers de dessin pour dessiner des modèles humains vivants. L'activité du dessin est un mélange de perception et de ressenti. Il faut pouvoir jongler avec les règles de construction et avec notre sensibilité. Donc la sensibilité, on peut dire qu'elle est souvent négligée dans le domaine scientifique, voire n'est quasiment pas prise en compte. Je prends l'exemple des études anatomiques que font les scientifiques, par exemple dans le domaine médical. Vous voyez qu'elles sont très détaillé, tous les éléments sont placés là où il faut avec beaucoup de précision, et pourtant, est-ce qu'on peut dire que ce sont de vraies œuvres? Est-ce qu'on peut dire que la personne qui est ainsi dessinée, est-ce qu'on la reconnaît si bien finalement? Ces reproductions prennent le corps du modèle dans sa globalité. Elles placent scrupuleusement tous les détails du corps avec beaucoup de minutie, mais elles ne font pas émerger le détail, la partie du modèle qui révèle une personnalité, un état d'esprit ou une émotion particulière que dégage la physionomie de l'individu qu'on est en train de dessiner. À ce jour, la caricature est le plus incisif des genres de portraits. Et au jeu des détails révélateurs, elle gagne toujours. On pense d'ailleurs à tort que c'est les caricatures de personnes qu'on connaît le mieux. Donc en fait, ce sont les visages qui nous sont le plus familiers, qui sont pour nous les plus faciles à réaliser. Et en fait, non. La physionomie de quelqu'un est plus révélatrice de ses spécificités, alors qu'on vient de connaître la personne, alors qu'on vient de faire sa connaissance, qu'on vient de la rencontrer. Et la raison est simple, c'est parce qu'on ne s'attarde pas sur les autres détails de son anatomie, mais on prend tout de suite l'essentiel, on retient ce qui est frappant au premier abord. Donc plus on côtoie une personne, plus notre observation d'elle devient superficielle, je dirais. Je remarque par exemple en atelier que souvent il y a une baisse de l'observation de... Lorsqu'on est en train de dessiner un modèle, notre observation baisse à partir de 2 ou 3 heures de travail. C'est une partie à cause du fait de la concentration et de l'effort que l'on fournit, mais c'est aussi dû au fait que le poseur nous devient plus familier. Et c'est pour cette raison que les professeurs de dessin en atelier changent régulièrement de modèle. Ils n'en ont pas un pour toute l'année, mais ils en ont 3, 4. On en trouve assez facilement qui varient leur modèle. Et donc pour rendre un portrait plus vrai, il vaut mieux que le modèle ne nous soit donc pas trop familier. Et c'est en le regardant d'un œil neuf qu'on peut en réaliser un portrait fidèle. Parce que c'est avec ce nouveau regard qu'on va pouvoir saisir le détail que par la suite on va déformer subtilement, c'est-à-dire l'accentuer un petit peu, sans tomber dans la caricature, pour créer non pas une vérité objective comme une planche anatomique de science, mais une vérité qui sera notre propre vision du modèle. Et l'artiste aura de meilleurs résultats si en plus il ajoute à cette recherche du détail révélateur un état de tension émotionnelle, afin que le message soit perçu sans équivoque par celui qui va regarder son dessin plus tard. Alors je parle de tension émotionnelle, c'est ce que le modèle nous fait éprouver. Imaginons qu'on trouve la personne que l'on dessine à l'aide, on va être dans un état propice à accentuer tous ces détails qui sont disgracieux. Et pour finir, je vais ajouter une dernière chose selon moi importante, et dont il faut se rendre compte assez rapidement lorsqu'on débute dans le dessin, c'est que le visage que l'on dessine, donc le visage humain qui est en vrai, se trouve dans un univers particulier. Donc c'est un volume qui est influencé par son environnement, lui-même régi par des lois physiques. Le fait de dessiner ce visage sur une feuille, c'est-à-dire une feuille, un espace bidimensionnel, c'est le transposer d'une réalité, d'un univers à un autre. Donc, qu'on le veuille ou non, ce deuxième univers, donc cette feuille où on pose le dessin, ne possède pas les mêmes particularités qu'en vrai. Il a des règles propres et au final, on recrée son modèle dans un espace possédant ses propres possibilités et restrictions. Donc il faut prendre ça en compte. Et donc c'est là qu'interviennent les techniques de perspective, de dégradé, de clair-obscur. Ces techniques visent à exploiter le potentiel de cet espace bidimensionnel. Donc au final, il s'agit moins de créer de la ressemblance, mais plutôt de créer une cohérence et d'adapter le modèle à ce nouvel univers qu'est la feuille de papier. Même si pour cela, on doit passer par la déformation. Déformation dont les critères sont ceux de notre propre perception du modèle. Voilà, j'ai terminé mon petit exposé sur la ressemblance et la déformation en portrait. Si vous avez aimé ce podcast, bien qu'il soit quand même différent des autres, je vous invite à visiter mon blog. Donc je vous donne l'URL, c'est www.blog-le-dessin.com-6, je précise, ou sinon tapez le Tapez blog le dessin sur Google et vous trouverez assez facilement, je pense. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous l'article de ce podcast ou sous un de mes articles déjà écrits sur mon blog. Ça me fera très plaisir de vous lire et voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel enregistrement.